trois invités avec nous chaque soir autour de la table pour discuter de la situation des marchés mondiaux. Sébastien Paris-Sorvit est avec nous, directeur de la recherche de LBPAM. Bonsoir Sébastien.
Bonsoir Yves.
Gilles Etchebéry-Garay nous accompagne également, président et directeur des investissements d'Elcano Asset Management. Bonsoir Gilles. Et Alexandre Ezez également à nos côtés. Bonsoir Alexandre.
Bonsoir.
Vous êtes stratégiste pour le groupe Richelieu. C'est un triptyque qui revient régulièrement dans l'actualité. Dollar, taux, pétrole, pas forcément dans l'ordre. D'ailleurs, c'est vrai qu'on parlait assez peu du pétrole jusqu'à ces derniers jours ou ces dernières semaines. Le dollar, lui, commence l'année comme il a terminé 2024 en force. Et les taux, eh bien, reviennent sur des sommets récents et électrisent un petit peu la planète marché aujourd'hui. Alexandre, qu'est-ce qui vous intéresse dans ce triptyque? Et est-ce que entre le dollar, les taux et le pétrole, est-ce qu'on a de quoi faire vaciller l'autre grand marché qui est celui des actions, par exemple?
Alors, en partie parce que les valorisations restent quand même assez élevées du côté américain et du côté européen. C'est vrai que la hausse des taux et la remontée du pétrole, c'est plutôt une mauvaise nouvelle, en tout cas pour les investisseurs, mais même pour la croissance économique. Ce qui est intéressant, c'est qu'à la fois, principalement, on a vu jusqu'à la fin d'année, la hausse des taux et la hausse du dollar, c'était assez lié, et le pétrole n'était pas dans le jeu, en fait. Et c'est vrai que ça vient ajouter un risque sur l'inflation, notamment en Europe, et donc sur les taux obligataires en général, et cette crainte que l'on a d'une Fed qui, non seulement est moins accommodante, mais peut potentiellement ne plus l'être du tout. Et finalement, sur 2024, tout le monde attendait la baisse des taux.
Ouais.
La baisse des taux,
le put. On attendait le put.
De Fed, et qui a libéré à peu près tous les pays. Hein. Ouais. Et finalement, l'inverse. Finalement, cette Fed qui veut rester avec un discours un peu plus restrictif, finalement, ça met toutes les autres banques centrales dans une situation inconfortable. Que ce soit le Japon, la Chine, l'Europe, évidemment, la Grande-Bretagne.
Comment vous comprenez quand même ce qui se passe, là, notamment sur les taux, hein? On a beaucoup commenté ce mouvement global, d'ailleurs, de correction obligataire, des taux sous tension, Royaume-Uni, Europe, et bien sûr le marché leader américain. On rejoue une fois de plus à se faire peur avec des éléments un peu fondamentaux sur l'inflation. C'est autre chose. Où sont les forces de rappel et les limites? Est-ce qu'on reste quand même dans l'idée qu'on ne va pas sortir des rails, en tout cas de ce qu'on a connu ces derniers mois ou ces trimestres? Ou est-ce qu'il y a toujours une chance d'un breakout, comme on dit dans le jargon?
Alors, contrairement à ce que l'on peut croire, c'est vrai que d'un point de vue européen, finalement, on voit qu'on est quand même assez dépendant des taux américains, c'est-à-dire qu'il y a eu
une contamination
taux américains. Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est que dans la première phase de hausse des taux aux États-Unis, ça a plutôt été lié à un effet Trump sur une croissance potentielle supérieure. Et donc, on a vu finalement les taux réels monter et les inflations anticipées rester finalement à leur niveau assez raisonnable. Et puis là, depuis le début de l'année, finalement, c'est plus les forecasts...
Les points morts qui remontent, quoi.
Le point mort qui remonte, ouais, ouais. Plus que sur les taux réels.
Ça veut dire quoi?
Ça veut dire
quoi,
que la crainte... là, dans un deuxième temps, on a plutôt une crainte sur l'inflation. Et,
d'une non-maîtrise de l'inflation.
D'une non-maîtrise de l'inflation. En tout cas, ce fameux dernier kilomètre qui peut durer très longtemps. Hein, c'est peut-être en dichotomie, donc on peut peut-être ne jamais y arriver aux États-Unis. Et c'est vrai que dans ces cas-là, on se dit, autant la croissance... On a vu qu'on pouvait faire de la croissance avec une inflation mesurée, ça c'est possible, mais et que les banques centrales, finalement, pouvaient être accommodantes et accompagner le mouvement, autant là, si la désinflation prend fin, là, on peut se poser des questions. Et encore une fois, tout vient de la Fed.
Ouais. Sébastien, quelles sont les questions qui sont soulevées là, par ces mouvements de marché que tout le monde regarde là, depuis quelques semaines maintenant?
Si on commence par les taux, parce que évidemment, ça joue un rôle d'ancrage important pour les marchés, pour les anticipations des uns et des autres, du coût de l'argent pour l'avenir. Mais je pense que quand on regarde, en tout cas les statistiques, aux États-Unis, on calcule la prime de terme, c'est-à-dire quelque chose qu'on avait oublié, on a oublié pendant très longtemps, rappelez-vous, pendant très longtemps, finalement, on était prêt à acheter des obligations sans se protéger de rien, parce que les banques centrales, le put allait être là, on va être tout le temps aidé par les banques centrales, et donc il n'y avait pas de risque à avoir une obligation pour très longtemps, même si le rendement était faible. Il se trouve que les estimations qu'on a aujourd'hui depuis que Trump a gagné les élections, c'est que ses primes de terme montent. Alors, c'est pas que Trump.
Le marché, les investisseurs, je le formule autrement pour être bien clair, Sébastien, les investisseurs, notamment depuis l'élection de Trump, demandent une extra rémunération pour détenir de la dette à long terme par rapport à la rémunération qu'il pourrait obtenir en roulant de la dette court terme. C'est ça l'idée.
Exactement.
Et ça, c'est nouveau.
Et ça, c'est nouveau. En tout cas, c'est nouveau par rapport à la période de déflation, disons, et même pendant cette période qu'on vient de vivre avec les banques centrales qui ont aidé tout le monde en gardant des politiques très accommodantes, et même pendant la remontée des taux, on n'avait pas cette prime de terme.
C'est reconstitution de prime de terme.
Et donc, elle ne cesse de monter. On est aux États-Unis, c'est presque 60 points de base. On était à moins 100 points de base de prime de terme. Et ça, c'est très important parce que ça nous raconte une première histoire très importante. Et pour nous, c'est pas un détail, c'est que les gens sont moins sûrs de l'avenir. Et être moins sûr de l'avenir pour les marchés, c'est pas génial. Et donc moins sûr de l'avenir, c'est que on ne sait pas ce que la Fed va faire, on ne sait pas peut-être ce que l'inflation va faire, on ne sait pas ce que la croissance va faire. C'est vrai qu'il y a de l'optimisme à court terme. Monsieur Trump nous dit qu'il va baisser les impôts, c'est bon pour les entreprises, ça va être bon pour la croissance. Ça a été un petit peu bon pendant la période Trump, rappelez-vous, mais la croissance n'a pas été spectaculaire. Certes, les profits ont monté parce qu'on a baissé de 30 et quelques pourcents à 21% le taux de l'IS. Là, on va le baisser à 15%. Donc forcément, c'est positif pour les profits, mais ça ne fait pas forcément de la croissance, ça n'investit pas forcément. Donc ça, c'est le premier élément d'ancrage. Malheureusement, pour tout le monde, non seulement l'inflation est un peu plus forte, comme vous l'avez dit, et donc tout le monde se dit, la Fed, quand même, c'est son objectif, c'est pas là, on va moins baisser les taux. Mais au total, on se retrouve quand même avec des taux d'intérêt beaucoup plus élevés que personne ne l'avait anticipé. Et par sympathie, on le sait, il y a cette corrélation, les marchés obligataires se parlent et les taux montaient partout. Alors, il se trouve qu'un pays, vous l'avez cité tout à l'heure, a souffert plus que les autres. Et c'est le Royaume-Uni, qui aujourd'hui est tout seul, n'est plus dans l'Union, dans la zone euro, et il se trouve...
Dans l'Union européenne.
Il n'a jamais été dans la zone euro, c'est vrai, dans l'Union européenne, et il se trouve que pour les Anglais, qui avaient déjà réussi à passer l'obstacle sans trop de dégâts sur un projet de finances publiques ou de budget qui était assez laxiste, le marché a un tiqué, on a vu les taux monter un petit peu, mais c'était pas encore complètement un moment listreux. Et donc aujourd'hui, il se trouve dans une spirale très négative. Ouais. Pourquoi ? Parce que les taux américains ont traîné à la hausse les taux anglais, et tout à coup, pour le marché, on a dépassé une ligne rouge, on s'est dit, attention, votre déficit ne va faire que gonfler.
Il
va
falloir 5,5 sur du 30 ans au britannique et 4,90 sur du 10 ans britannique.
Exactement. Et donc, on se dit, sûrement le marché exagère un peu, mais il va falloir faire quelque chose. Moi, j'ai travaillé au FMI. Et quand ça arrive, il faut bien quelqu'un qui arrête cette mauvaise spirale.
Il faut un coupe-circuit.
Et le coupe-circuit ne peut venir que du budget, dont la ministre des Finances a annoncé qu'elle va faire quelque chose. Quelque chose va être fait. Pas évident où. Des hausses de taxes supplémentaires, ça ne va pas être bien vu. Il va falloir couper quelque part. Comment, etc. En revanche, il y a une autre conclusion, et qui est néfaste pour l'économie anglaise, c'est que peut-être la Banque centrale devra se mettre en sourdine aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on s'attendait qu'elle fasse quelque chose.
Des baisses de taux.
Et des baisses de taux. Je pense que c'est toujours possible. Pourquoi ? Parce que si, du côté budgétaire, le dialogue, le policy mix se fait de façon ordonnée, ils vont pouvoir le faire. Mais c'est important parce que c'est un signe qu'aujourd'hui, le marché obligataire s'est réveillé, les fameux bond vigilantes ou les surveillants
la patrouille. Bon état, moi, j'appelle ça la patrouille obligataire.
Qui surveille qu'au total, quand même, monsieur les politiques, il faut de l'ordre dans les finances publiques, se sont réveillés. Est-ce qu'aux US, ils se sont réveillés aussi ? Pour le reste de l'Europe, je ne sais pas. Même pour la France, il y a un petit réveil. Mais finalement, 80 et quelques points de base vis-à-vis du bond, ce n'est pas exagéré.
Mais c'est bien ce laboratoire britannique qui doit...
J'ai vu que vous aviez... vrai que c'est pas mal. C'est pas mal pour dire, est-ce qu'on change de monde ? Et c'est un ancrage important. Et donc, il y a les conséquences sur le dollar qui continue à s'apprécier. La livre, c'est la monnaie qui s'est plus dépréciée.
Ah, oui.
Mais nous, on a un peu suivi. On n'est pas si loin
que ça. Et d'avoir des taux qui montent et une devise qui baisse, c'est pas très sain comme
c'est
mouvement.
C'est pas très sain. Et donc, non, et c'est important de le souligner parce que pour le Royaume-Uni, et comme pour nous, le Royaume-Uni, malgré tout, n'a pas réussi à se diversifier et d'aller ailleurs. continue à exporter, importer, oui. très lié à l'Union européenne. Et donc, au total, du point de vue de l'inflation, par exemple, ce n'est pas aussi massif parce qu'on reste accroché à, finalement, l'Union européenne. Donc, ça, c'est un élément positif. Donc, pour moi, ça, c'est important. Et, finalement, le pétrole, c'est un autre sujet. C'est vraiment, c'est très différent.
D'accord.
C'est très différent. C'est les sanctions à la Russie.
Oui, je suis d'accord.
C'est un autre paradigme, on reviendra là-dessus.
Les causes sont différentes, mais comme disait Alexandre, ça vient quand même rajouter une dimension sur l'inflation.
Pas très pour moi, en tout cas.
Ouais, ok. Gilles, sur ces considérations autour du triptyque clé, là, dollar, taux,
d'accord,
pétrole.
C'est un cas à part, c'est les sanctions, c'est une coïncidence plus qu'autre chose.
Mais c'est un petit mouvement ?
Moi, je ne pensais pas à un mouvement durable, parce qu'on est déjà sur une consommation qui est plutôt orientée à la baisse, en particulier en Asie. Et les pétroliers indiens, chinois ne peuvent plus acheter du pétrole russe, ce qu'ils faisaient, ils se sont remis.
On n'est pas en route pour revoir les prix extrêmes qu'on a vus en 2022.
Je ne crois pas. Et puis, ça ne fera qu'accélérer la transition. Mais déjà, il y a un phénomène technique où les Indiens et les Chinois ont pris le message des Américains et ils n'achètent plus de pétrole russe en douce. Donc, ils sont obligés de racheter du pétrole officiellement.
J'entends.
Et ça déséquilibre le marché. Plus la chasse au pétrole fantôme, enfin voilà. Non, je pense que ce qui est important, c'est effectivement, il y a deux choses. Il y a de façon plus globale et plus le 16 décembre, il y a le changement d'attitude de la Fed. On a une parenthèse, je ne vais pas dire enchantée, mais du 18 septembre au 16 décembre, où la Fed a laissé tout le monde spéculer en disant...
Donc ça, c'est les 100 points de base de baisse de taux de la Fed, c'est
oui,
ça
mais aussi les M7 qui sont partis au sommet. Enfin, c'est le Bitcoin à 100 000 $. Enfin, c'est allez-y, spéculer... il faut que l'économie soit le plus chaud possible pour le 8 novembre, le 5 novembre. Allez-y, voilà, open bar. Je rajoute une goutte de whisky dans le punch avant les élections. Puisque quelqu'un avait dit la rôle de la Fed, c'est d'enlever le punch.
Le bol de punch.
Voilà,
c'est ça.
Là, 18 septembre, il rajoute un litre de whisky un mois avant les élections. Après, fondamentalement, je pense qu'on est en train de faire une transition et qui est aujourd'hui visible entre une période où on avait trop d'épargne. Les taux négatifs, en fait, c'est aussi un prix d'épargne qui était négatif. C'est qu'il y a un équilibre entre l'offre et la demande.
Excès d'épargne et pas assez d'investissement.
Voilà. Et on est en train de switcher, de revenir à une époque normale où, aujourd'hui, on n'a plus assez d'argent liquide, plus assez d'argent pour financer tout. Et il y a un mur je crois que c'est Crossborder qui dit que la liquidité, c'est la capacité à refinancer toutes les dettes. Il y a un mur. Une des raisons pour lesquelles les taux longs, et on peut revenir, a ralenti l'économie américaine, c'est que beaucoup de gens avaient pris des
pas
taux.
Pas besoin de s'endetter.
Voilà, 2020, 2020.
Pas besoin de se réendetter ou de se refinancer.
2026, les hypothèques étaient à 3%.
Donc là, il y a à nouveau un mur de la dette en 2025, là.
Ah oui, c'est les refinancements Covid.
Ouais.
De 5-6 ans sur le corporate. Donc,
parce que le mur, il devait venir en 23. À chaque fois, on arrive à le reporter.
Oui, mais là, ça va être de plus en plus compliqué.
D'accord.
Et aujourd'hui, une épargne plus limitée, parce que les prix ont monté, tout ça, donc les taux d'épargne. Doit financer les déficits, doit financer l'endettement privé. Et je pense qu'en plus, il y a une espèce d'aspiration gigantesque vers les États-Unis où aujourd'hui, toute cette épargne mondiale finit aux États-Unis, d'entrer le dollar faire, soit sur les taux, parce que c'est les meilleures rémunérations de taux courts, soit sur la tech américaine. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, qu'on a des zones comme l'Angleterre, l'Europe, qui sont globalement plutôt en ralentissement fort, qui sont aspirées des taux longs, sont contre-intuitifs, parce qu'on a cette épargne aujourd'hui qui est plus suffisante.
En tout cas, elle est mal redistribuée, quoi, d'une certaine manière. Non, elle est aspirée par un seul pays dans le monde.
Donc, du coup, les autres, avant, on
pouvait faire
ce qu'on voulait, quoi qu'il en coûte. Et aujourd'hui, c'est plus possible. Est-ce qu'on revient dans une épargne qui doit être rémunérée avec taux d'intérêt réel positif, hein? Je veux dire, on est à 2,5 de taux d'intérêt réel positif aujourd'hui aux États-Unis. Personne ne dit rien, mais voilà. Donc, c'est les plus gros taux d'intérêt réel de la planète. Donc, qui aspire l'épargne mondiale, mais que c'est une épargne qui est désormais, je pense, globalement insuffisante pour faire tout ce qu'on a à faire, et en particulier refinancer tout ce qui doit être financé en 2025, les déficits budgétaires qui sont restés assez importants, surtout aux États-Unis, et même tout ce qui doit être financé sur la dette privée. Donc voilà, donc c'est un changement. Pour moi, on achève le changement de structure post-Covid, où effectivement le monde est passé d'un excédent d'épargne, probablement à un déficit d'épargne. Les taux obligataires sont les premiers à s'en rendre compte.
À réagir, ouais.
Mais normalement, si cette hypothèse est vraie, ça va finir par se diffuser à d'autres marchés.
D'accord.
Les actions, c'est peut-être en cours. Et un jour, tout ce qui est dette privée et autres, on verra.
D'accord. Donc, on est plutôt dans un moment de de-rating des actifs, là, qu'on a vu progresser pendant 2 ans.
Oui, long terme, à part les obligations d'État.
Oui, j'entends.
Qui sont les seuls qui ont pris un prix
correct. Et 2,5% de taux réel, je ne vous ai pas posé la question, mais 2,5% de taux réel aux États-Unis, ça s'achète.
Ah mais 30 ans, non, mais, le gouvernement en 5 ans prend 30 ans, pour les fonds de pension, tout ça, ils résolvent d'accord. une partie. En plus, d'accord. leurs passifs ont beaucoup dépendu puisqu'ils sont remontés.
Donc ça va limiter quand même la hausse des taux longs américains à un certain stade.
Je pense que ce sont, hein, les taux longs, sauf si l'inflation s'emballe, et c'est le dernier point qui est aussi le risque.
Ah oui.
C'est que, en fait, face à ça, les banques centrales, en 2025 ou 2026, auront un choix à faire. Soit elles refont le quantitative easing pour absorber et donc relancer l'inflation, soit elles décident que l'inflation, ça a été trop et elles sont en retard. Et là, on a le de-rating de tous les actifs réels. Aujourd'hui, enfin, il va y avoir un choix à faire, et c'est un peu ça que refait le marché, dire, voilà, ils ont réussi à mener les deux, politique monétaire expansionniste, politique budgétaire expansionniste, cette époque est finie.
Ouais,
maintenant, on va faire des choix entre inflation et... actif, récession...
Et donc, dans l'intervalle, on tâtonne, quoi.
Et en fait, on tâtonne.
Dans l'intervalle, on tâtonne. Alexandre, je reprendrai bien votre idée, notamment sur la Fed. Effectivement, on attendait quand même, il y a encore quelques semaines de cela, que la Fed puisse continuer à délivrer quelques baisses de taux à travers l'année 2025, au moins pour... peut-être neutraliser le réglage de sa politique monétaire. Visiblement, c'est à nouveau une grande question. Et même, vous évoquiez la possibilité, pourquoi pas, qu'un prochain mouvement de la Fed soit plutôt à la hausse. C'est quoi le chemin qui peut nous amener à ça? Et en parallèle de ça, comment est-ce que la BCE se comporte si jamais la Fed est au moins engagée dans une pause, j'allais dire, de plusieurs mois? On aura le 31 janvier, je crois, le prochain point de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine.
Ce qui est certain, c'est qu'il y a eu véritablement un changement de discours entre les deux réunions de la Fed, avec une Fed qui, à un moment, a dit on va pas se projeter sur ce que va faire Trump. Et puis, finalement, à la dernière réunion, c'était clairement le discours, c'était il y a un risque inflationniste lié à Trump. Alors, est-ce que notre scénario, c'est pas que la Fed monte ses taux, mais je pense que le marché peut à un moment y croire, repricer.
Ah ouais.
Même si, quand on regarde dans les détails, notamment dans l'inflation américaine, il y a quand même encore des réserves de désinflation qui sont encore à l'œuvre. Et c'est une des raisons pour laquelle, même si on stagnait, voire même si on remontait un peu, les banquiers centraux n'étaient pas si inquiets que ça. On l'a vu notamment dans le dernier FOMC. Donc, sans Trump, en tout cas, la désinflation, elle perdurait. Et là, on parle quand même d'une inflation qui remonte, alors que Trump n'a toujours pas...
Non.
C'est ça le vrai
sujet. Il n'a fait que parler pour l'instant.
Il n'a fait que parler.
Ou tweeter, je ne sais pas comment on dit sur Trump Social. Mais...
Alors, il y a des éléments inflationnistes, ça c'est certain. Est-ce que les droits de douane sont inflationnistes? Ça, il y a encore des discours, on ne sait pas trop, en fait. Parce que, alors, en Europe, certainement que c'est pas inflationniste, voire même potentiellement déflationniste. Et aux États-Unis, est-ce que les baisses d'impôts de l'autre côté... Enfin, en tout cas, il y a... encore des discussions. Le vrai sujet pour la Fed, à mon avis, c'est l'immigration. Et c'est là où Trump, à mon avis, devra mettre un peu de l'eau dans, son vin, parce que c'est vraiment le vrai sujet. En fait, quand on regarde l'immigration, notamment les deux dernières années, il y a eu une forte, très très forte immigration aux États-Unis.
3 millions par an, hein. Enfin,
oui,
c'est l'ordre de grandeur. Hein.
Énorme, pour effectivement pallier au manque de main-d'œuvre, et c'était essayer de faire baisser la pression salariale, c'est certain. Et ça, s'il mettait en œuvre tout de suite son programme, là, ça serait assez décevant.
Donc le vrai risque inflationniste pour vous, c'est dans la politique migratoire de Trump. Avec la question, pour chacune des grandes dimensions de ces Trumponomics, de savoir jusqu'où il mettra le curseur. Hein. C'est
exactement.
Ça, quel équilibre il voudra trouver entre la satisfaction de son public politique et la réalité économique. Voilà. Quoi.
Et notre analyse, en tout cas, c'est quand même que Trump, on a parlé, effectivement, il est populiste, mais La chose qu'il ne veut pas, c'est un retour de l'inflation. Il ne veut pas être le président. Et donc, il fera tout quand même pour essayer de maîtriser cette inflation. Alors, il y a des contrebalanciers. Le déficit budgétaire, peut-être qu'il sera beaucoup moindre avec des membres de son parti qui sont quand même beaucoup plus restrictifs. Mais je pense qu'il mettra peut-être de l'eau dans son vin sur l'immigration, alors que sur les droits de douane, là, il risque de taper assez fort et assez rapidement.
C'est un marqueur important pour lui, qui porte pas forcément ce risque inflationniste.
Exactement. Et en plus, en attendant de mettre en place ces droits de douane, ça... Il peut avoir un double effet inflationniste, parce qu'il peut avoir une suractivité liée à des restockages massifs. On a vu les PMI manufacturés en Europe au mois de décembre remonter. On a vu les exportations chinoises remonter. Et donc, plus il attend en disant qu'il va le faire, plus les entreprises américaines
anticipent,
potentiellement créent une surchauffe.
Ouais.
Les enquêtes sur l'emploi. Et donc, il faut qu'il aille rapidement sur ce sujet-là, en tout cas, pour éviter une deuxième lame après, quand il la mettra en place.
Il faut qu'il lève le voile.
Il y a un équilibre un peu...
Il faut qu'il lève le voile.
Exactement.
Oui, il y a une question de séquence qui est très importante, j'ai l'impression, dans le l'application des Trumponomics.
Degré de séquence.
Alors, bah, l'immigration, Gilles, c'est le point central, à mon avis, là où il devra ajuster.
Gilles, si vous voulez reprendre la parole là-dessus, Trump, alors, peut avoir beaucoup de défauts, beaucoup de qualités. En tout cas, il faut considérer que c'est quand même un animal politique peut-être extraordinaire et qu'il a sans doute bien compris qu'il avait été élu en partie, en grande partie, parce que les Américains pensent que l'inflation, c'est la faute de Biden. C'est quand même un peu le socle de son mandat.
C'est clair et net, puisque les Biden, pour la première fois, ont gagné plus de 100 000
dollars. Donc, partant de là, qu'est-ce qu'on imagine à compter de Day One la semaine prochaine?
Le problème, c'est qu'il y a plein de cuisiniers dans la cuisine de Washington, des gens qui sont pas forcément... enfin, qui sont compétents, Scott Bessin est compétent, mais qui ne maîtrisent pas et qui ont des opinions un peu différentes des uns des autres.
Oui, c'est un patchwork.
Et quand on voit là tout à l'heure sur l'immigration, je suis d'accord qu'il faut pas... Mais on voit J.D. Vance qui a parlé hier soir.
Donc le vice-président.
Il y a 1 million de gens plus à aller chercher, 2 millions de personnes à aller chercher immédiatement. C'est le vice-président. Donc, qui lui, dans la vision très dure sur le plan de l'immigration, il y a les Trumpistes de Washington et les Trumpistes de New York. Les Trumpistes de New York sont plus pragmatiques. Bessent, même Musk d'un certain côté. Et les Trumpistes de New York sont quand même beaucoup plus durs. Donc aujourd'hui, il y a un problème de degré, il y a un problème de décision. Qui va avoir raison, in fine, qui va parler, le dernier à parler à l'oreille de Trump, et d'ordre, effectivement, parce que chasser l'immigration, c'est inflationniste. Si par-dessus, on met des droits de douane, c'est encore plus inflationniste, parce qu'on manque de main-d'œuvre. Pour, inversement, si c'est, on laisse faire progressivement. Voilà, donc c'est
J'ai écouté et lu 2-3 travaux d'économistes sur l'immigration. Enfin, je veux dire, limiter le flux d'immigration illégale, pourquoi pas le renverser comme Trump le promettait, renvoyer les immigrés illégaux quand on fait la somme et les maths, c'est incalculable. Les montants que ça demande, c'est incalculable. Ça n'a jamais été fait dans l'histoire.
Surtout dans l'agriculture.
Donc. Et voilà, il y a aussi le Trumpiste texan, peut-être, qui pourrait à un moment se demander si la main d'œuvre,
la plaine centrale.
Voilà.
Et c'est vrai que par exemple à New York ou dans la plaine centrale, on veut chasser les immigrés qui font des crimes. Enfin, c'est le fameux projet de loi de la personne qui avait été violée par un immigré illégal. Voilà. C'est la seule immigration qu'il veut chasser. La vision nataliste pure et dure de J.D. Vance ou de Smith, c'est de dire tous ceux qui ne sont pas blancs ne sont pas américains. Et donc, il y a quand même un espace assez large.
Oui, puis on a vu la friction que ça pouvait amener aussi avec, je ne sais pas, la Silicon Valley, avec les H-1B, les visas, etc., qui sont clés pour le fonctionnement de l'innovation aux États-Unis.
C'est là où New York et la Californie, les supporters sont beaucoup plus ouverts là-dessus que ne le sont les MAGA purs et durs historiques de Trump. Donc, on ne sait pas où va mettre le curseur. Ce sera lui et l'année qui l'emporte. D'accord. Et là, c'est vraiment assez fondamental pour l'inflation et pour la surchauffe.
Mais c'est une pure inconnue. C'est comme ça qu'il faut...
j'entends. Moi, c'est une pure inconnue. Parce D'accord. que okay. quand j'entends J.D. Vance d'un côté, quand j'entends Bessent de l'autre, j'ai pas du tout le même discours. Ouais. Et in fine, c'est... et ça, c'est les prérogatives de Trump. Donc, c'est Trump...
Donc, premier point d'interrogation à lever, le migratoire.
Après, il y a les droits de douane, parce que les Chinois, par exemple, ont un plan, probablement un plan, j'espère, un plan de relance en réserve. Et ils attendent de voir que la Chine... voir ce que fait Trump avant de le sortir. Donc, tout le monde est en attente de ces droits de douane. Les devises bougent. Plus, on a vu l'article du Washington Post l'autre semaine, si c'est moins fort, les devises rebondissent. Si c'est plus fort, les devises s'affaissent pour compenser. Enfin, il y a tout le monde.
C'était une bonne répétition cette journée-là, j'ai trouvé effectivement.
Je l'ai prise comme ça.
On a bien vu sur une journée, effectivement, les informations du Wall Street Journal démentissent que ça impliquait effectivement sur les
Washington
devises.
Post,
sur Washington Post, pardon.
Tout à fait. C'était pour moi un ballon d'essai de quelqu'un dans l'administration Trump qui, on ne sait pas, à vous le voir.
Bon. Sébastien,
je pense qu'il faut partir d'un truc que simple. D'abord, Trump est un populiste. Et c'est vrai qu'il a quelques jauges. Hein, le marché action, c'est très important. Et surtout, il y a que les gens qui l'ont soutenu soient contents.
Ah oui.
Et donc, il ne va pas changer. Et de fait, quand on entend son discours, et malheureusement, pour ceux qui ont oublié, le premier mandat, c'était ça. Tous les lundis, on avait un truc explosif. Est-ce que ça devenait réalité ou pas? Donc, il faut s'habituer à ça. Donc, du point de vue économique, c'est le deuxième élément. Donc, Trump est un populiste. Et lui, il veut être... avoir le soutien des gens qui se sentent maltraités, etc., et convaincre les riches qu'ils vont gagner avec lui. Deuxième point sur les mesures. Les trois mesures importantes, ou les quatre mesures importantes. C'est un, les impôts, c'est positif pour l'économie, c'est positif pour les entreprises. Maintenant, ce n'est pas très positif pour le déficit, qui est un problème. Et la première fois, ils n'ont rien fait. C'était, ça se paye tout seul, rappelez-vous. Ça ne s'est pas payé tout seul. Et pour les autres points, il y a la déréglementation, bien pour le secteur bancaire, avec les risques pour l'avenir. On le sait, ce qui s'est passé il n'y a pas si longtemps sur les banques régionales. Pour prendre ce cas-là, pour le reste, ça sera essentiellement des réglementations anti-ESG, donc notamment sur le pétrole, etc., l'énergie. Troisième élément, c'est l'immigration. On va mettre ensemble immigration et droits de douane, parce que les deux sont... Donc, quel que soit le modèle macro des gens sérieux...
Une taxe sur le consommateur américain.
Taxe sur le consommateur américain. Et c'est négatif pour la croissance. Pourquoi c'est négatif sur la croissance? Parce que si on prend les droits de douane, ce qui est moins trivial, c'est que vous empêchez des gens qui sont plus compétitifs que vous pour rentrer sur le marché. Et ça, ça crée moins de croissance à l'avenir. Parce que vous allez produire la même chose, plus cher, dans l'économie américaine, si jamais vous arrivez à la substituer. Peut-être les Chinois, il y aura des représailles.
Il n'y a plus d'intensité concurrentielle qui permet une amélioration de votre production, de qualité et de prix.
C'est plus cher, c'est plus cher, c'est plus cher. Et à court terme, vous créez de l'inflation. Vous créez de l'inflation. Et la question, est-ce que l'inflation, c'est comme une taxe, c'est comme une TVA ou c'est autre chose? C'est autre chose. Tous les modèles savent que monter les impôts, donc les taxes douanières, peut engendrer une inflation durable. Et une des raisons, c'est parce que les effets de substitution, je suis protégé, je monte plus les prix. Donc, en général, c'est inflationniste. Donc, si Trump faisait ce qu'il a promis, ça serait une catastrophe pour les États-Unis et surtout pour le reste du monde. On reviendrait, c'est-à-dire la déglobalisation prendrait une autre dimension. Nous, on pense que ça n'arrivera pas. Alors, peut-être qu'on est trop optimiste, mais ça n'arrivera pas de ce point de vue-là. Reste l'immigration. Il y a 8 à 11 millions d'illégaux aux États-Unis. Et comme vous le disiez, Grégoire, impossible. Hein. On peut prendre tous les bus qu'on veut, ça va être dur d'enlever 11 millions de personnes. Ça n'arrivera pas. Et si ça arrivait...
Ça coûte des dizaines, des centaines de milliards.
Et parce que c'est des consommateurs et des travailleurs. Alors, illégaux ou pas, mais c'est des consommateurs et travailleurs. Énorme effet sur le PIB. Maintenant, nous, on fait une hypothèse très simple. On revient à l'époque Trump. C'est vrai qu'on était plutôt à 1 million par an, voire un peu moins même, de personnes qui arrivaient par an. C'était un peu plus, d'ailleurs, que l'époque de Obama.
Obama, oui.
Et c'était un peu plus. Donc, malgré le mur, etc., il y a plus de gens. Là, on a une explosion. Mais ce n'est pas dû parce que les États-Unis ont ouvert les frontières. C'est que crise au Venezuela, en Amérique latine, ça a donné beaucoup de flux pour les États-Unis et d'autres régions du monde. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire quelque chose de plus modéré? Cette chose plus modérée va avoir un impact sur la croissance américaine. Est-ce que ça aura un impact positif sur les salaires? C'est un des problèmes avec Bessel, qui a l'air très raisonnable, hein, avec ses fameuses flèches sur qu'est-ce que doit faire Trump. L'une, c'est sur le déficit, c'est important.
C'est les 3-3, la règle des 3-3.
La règle des 3-3. Et sur l'immigration, il défend une théorie assez étrange. Comme quoi, en fait, le fait de ne pas amener beaucoup de gens chez vous, ça va permettre de soutenir les salaires. C'est positif. Pourquoi? Parce que vous allez gagner en productivité. Parce que, évidemment, il va falloir faire des efforts. Il va falloir mieux gérer.
On a eu l'immigration et des gains de productivité. On a eu les deux en même temps. Hein.
Mais est-ce que... Non, personne, il n'y a pas d'économiste qui soutient. Bon, bref. On est dans une situation, on est impopuliste, on a des mesures qui sont très négatives à moyen terme pour la croissance. Il n'y a pas vraiment d'innovation derrière tout ça, il n'y a pas de choses absolument extraordinaires pour prolonger la productivité qu'on a vue aux États-Unis. Donc, on est tous dans l'attente, est-ce que ça va être très négatif ou un petit peu négatif? Nous, on est dans le un petit peu négatif, avec un peu plus d'inflation, ça contraint la Fed. Ils l'ont intégré dans leurs prévisions, vous l'avez vu, hein, ils l'ont tous dit, y compris le staff de la Fed. Est-ce qu'ils se trompent? Est-ce que ça sera moins, un peu plus? En tous les cas, on est aujourd'hui, c'est un truc qu'on sait, la Fed va être dans l'attente de ce qui se passe, et c'est pas génial pour les actifs risqués, même si à moyen terme, si on préserve la croissance mondiale, malgré tout, ça devrait être bon. Sauf si les taux sont beaucoup plus élevés, parce qu'on va plutôt acheter des taux à 2,5% de croissance de taux réel aux États-Unis. En Angleterre, encore plus, on achète, mais il y a une limite. C'est vrai qu'il y a une limite, parce que si aucun des politiques fait ce qu'il doit faire pour rétablir un équilibre soutenable...
Oui. Ça peut déraper.
Voilà, il ne faut pas prendre toute l'épargne pour financer le déficit public, il faut que l'épargne aille dans l'investissement pour créer de la croissance.
Sur l'Europe, dans ce contexte, Alexandre, effectivement, avec la problématique américaine, qu'on a bien décrit, des marges de manœuvre pour la Fed qui semble s'être considérablement réduite, en tout cas sur un horizon de quelques mois. En Europe, là, je voyais que Philippe Lane insiste encore ce week-end. Il faut y aller, il faut délivrer des baisses de taux. Est-ce que la BCE pourra s'affranchir à nouveau de la réserve fédérale américaine de ce point de vue-là?
Et d'ailleurs, c'est ce qu'il dit. Il dit qu'il faut s'affranchir et dans son attitude de la Banque centrale américaine. Ce qui est le sujet, c'est que les marchés ne le font pas. Donc, nous, on price à peu près 100 BP de baisse cette année. S'il n'y avait pas les États-Unis, ce serait peut-être une ou deux baisses de plus. Mais si les États-Unis continuent à être beaucoup, beaucoup moins accommodants que prévu, y a quand même un effet sur l'euro qui est important. Évidemment que la hausse du pétrole est indépendante à ce que l'on aux autres classes d'actifs, en tout cas aux autres mouvements, que ce soit sur les devises ou les taux. Mais on voit bien que en Europe, en tout cas, on sort d'un choc d'offres qui a fait monter l'inflation, pas comme aux États-Unis, c'est plutôt un choc de demande, pour schématiser, et la Banque centrale va avoir peur, en tout cas, de ce choc d'offres. On a vu, ne serait-ce qu'un hiver un peu plus froid que d'habitude, on a eu la chance en 2022 d'avoir un hiver qui était doux, donc finalement les réserves de gaz n'avaient pas posé problème. Là, on commence à se poser la question, donc l'hiver va se terminer, mais quand même, on va être ric-rac. Et ça peut faire remonter l'inflation. Vous mettez les matières énergétiques qui montent, l'euro qui baisse, là, ça recrée une dynamique inflationniste et potentiellement un choc d'offres. Alors, évidemment, encore une fois, un peu comme ce que je disais aux États-Unis, il y a une réserve de désinflation. Ils sont tous confiants sur l'inflation qui est en train déjà. Il y a une partie cyclique de l'inflation qui va nous emmener vers le bas. Mais et avec des salaires qui vont se modérer, il reste quand même un gain de pouvoir d'achat pour les consommateurs. Et normalement, en termes de croissance, ça devrait soutenir la croissance un peu. Et tout le sujet, on a vu un papier de la Banque Centrale Européenne, c'est savoir si elle ne va pas aller encore s'amasser sur l'épargne et pas sur la consommation. Ouais. On voit bien les deux gros pays, France, même si ça va un peu mieux, ou l'Allemagne, politiquement, ça crée des tensions vis-à-vis du consommateur. On voit aussi, et ça c'est pas négligeable quand même, que les montants de dette sont tellement importants que dès que vous avez des hausses des taux, y a un effet autoréalisateur quand même. C'est-à-dire que même sur l'Italie, qui est un peu vertueux, l'allié de Trump, enfin bref, avec une dette sur PIB à 140, 150, vous montez de 100 BP les taux, je vous assure que sur le déficit budgétaire, en tout cas sur les prévisions, ça se voit tout de suite. Et vous avez beau avoir un excédent primaire, si vous payez 4, voire 5, voire 7% comme a prévu, enfin, dans certaines prévisions de la Commission européenne, les charges d'intérêt de l'Italie, là, ça complique la donne. Donc, il faut absolument que les taux ne montent pas trop et pas trop longtemps. Et là, d'une certaine manière, il y a les États, mais pas comme aux États-Unis où... Il y a un État qui est responsable sur le déficit budgétaire. Là, c'est chaque État doit faire son jeu. Et ça complique un peu la donne, que ce soit en termes de croissance, de déficit budgétaire et évidemment d'inflation globale.
Sur le plan des marchés, là, il nous reste quelques minutes, tour de table, mais gardez la parole, Alexandre. Sur le plan des marchés, comment tout ça se traduit en scénario d'investissement pour 2025, encore une fois, partant des situations macro-politiques qu'on a rapidement décrites là, aux États-Unis et en Europe. Il faut regarder aussi la situation des marchés financiers, des marchés actions notamment. Est-ce que c'est encore tout pour les États-Unis avec le pari que cet exceptionnalisme, cette surperformance accumulée année après année peut encore continuer? Est-ce qu'il y a au moins un moment tactique à espérer côté européen? Enfin, comment, entre la picture, le paysage global macro que vous décrivez et la situation déjà intégrée dans les marchés financiers, comment est-ce qu'on a envie d'être positionné?
Bon, on a vu à peu près, on a vu cette répétition avec certains articles de journaux. On va avoir beaucoup, c'est facile à dire, mais beaucoup de volatilité volatilité avec des corrections beaucoup plus importantes que l'on a eues ces derniers mois.
On m'a dit que sur le S&P en 2024, il n'y avait pas eu plus de 8% de drawdown. C'est ça, hein, moins de 10% de drawdown.
Ce qui est très rare. On doit voir 15%, c'était le classique avant. Et c'est vrai que.
Qu'on revienne dans ce genre d'ordre de grandeur déjà.
Oui, sauf qu'on a des hypothèses de performance qui sont de l'ordre de 8 à 10%. Donc si vous avez des corrections de 15%, il va faire
plus 30, quoi.
Disons qu'il va falloir bien gérer la flexibilité sur les marchés actions. Donc effectivement, là, peut-être un tout petit peu plus aux prudence, même si sur 2025, nous, sur les actifs américains, on reste plutôt positif, ne serait-ce que par rapport à l'actif dollar qui aide ces actifs-là. Oui. Et pour l'instant, en tout cas, à 4,75, voire pourrait monter à 5 sur les actifs obligataires, il y a quand même des acheteurs naturels, à mon avis. On parlait des fonds de pension, mais pas que, les Japonais et puis les acteurs américains qui peuvent, sauf s'il y a vraiment un dérapage de l'inflation, là, ça serait dramatique. S'il n'y a pas de dérapage de l'inflation, on pense qu'on pourrait avoir
C'est
des zones d'achat. Mais on n'est pas à l'abri d'un dérapage sur l'inflation. Géopolitiquement, un pétrole qui remonte à 100 dollars pour X raisons, ce n'est pas notre scénario. Mais en tout cas, il y a une fragilité d'éléments exogènes en Europe qui font qu'il faut quand même être alerte.
Ouais. Gilles, sur la situation des marchés, est-ce que ça implique comme positionnement
pour démarrer? Il y a deux choses. Trump 2.0, c'est pas totalement différent de Trump 1.0. Il avait hérité d'une économie en sous-activité d'Obama, les taux bas, un déficit bas. Là, il a une économie en surchauffe, qui a été maintenue en surchauffe, je dirais artistiquement, par Yellen et Powell pendant 2 ans. Et donc, qui a justement résisté. Il n'y a jamais eu de drawdown, parce qu'à chaque fois, soit la Fed, soit le Treasury arrivait à remettre de... Donc, il arrive de quelque chose qui est vraiment, je n'ose pas dire à bout de souffle, mais entrée. Et on a une équipe qui est quand même moins compétente, probablement, en tout cas plus hétérogène, qui arrive. Donc ça sera difficile.
L'équipe de Trump est moins compétente aujourd'hui.
Elle est plus hétérogène que n'était
que celle de 2000.
Que Yellen.
Ah, que. Yellen, ah, bah oui. Powell. D'accord.
Powell, il y avait une symbiose quand même.
Oui.
Où à chaque fois qu'il a fallu remettre de l'essence dans le réservoir, quelqu'un a été là, soit Trezor, soit.
Il y avait un couple.
Il y avait un couple qui travaillait ensemble pour amener, délivrer une économie en surchauffe le 5 novembre 2024. Ça n'a pas marché, mais en tout cas, ils ont bien travaillé de ce côté-là. Donc, il hérite d'une économie en surchauffe, avec une équipe plus hétérogène, ne serait-ce qu'avec la Banque centrale qui est maintenant plutôt dans la résistance, je disais. Donc ça sera beaucoup... un attelage beaucoup moins compétent, je pense, dans une économie différente, fondamentalement différente de ce qu'il a connu en 2001. Ça, c'est le premier point. Concernant l'Europe, moi j'ai un catalyste quand même sur l'Europe et l'euro.
Mais ça veut dire quoi pour le marché américain? Plus de friction, plus de tension, plus de volatilité, risque de drawdown plus important.
Il y a un énorme optimisme sur les IPS, sur la croissance, qui risque d'être déçu. Et à ce moment-là, le dollar risque d'en pâtir quand la Fed va devoir baisser.
Mais ce moment-là de vérité, comme vous dites, ce moment de rendez-vous, en tout cas, il est là devant nous, c'est pas dans 3 ans, c'est ce
non,
que je veux
non,
dire.
Parce que
c'est pour maintenant.
7% d'IPS en 2025, alors qu'on venait d'année 2023-2024 où les estimations étaient faibles, on anticipait des récessions. Et à chaque fois, ils ont réussi à surmonter ça et à remettre de l'essence au moteur. Okay. Là, ça plutôt mon avis l'inverse. On a d'énormes attentes et une équipe qui ne sait pas trop où est le réservoir d'essence.
Bon, ça, c'est pour les US, ça, c'est pour l'Europe.
Et donc, du coup, le dollar qui peut décrocher et les actions. Et pour l'Europe, pour moi, il y a un catalyste de ce marasme. C'est probablement 2025, un vrai cessez-le-feu entre l'Ukraine et la Russie, qui ne soit pas une défaite politique ou militaire de l'Ukraine, mais vraiment un cessez-le-feu qui change la donne sur l'Europe, probablement avec le retour du gaz russe au prix de la défaite stratégique de Poutine. Voilà, et donc, c'est ça qui pourrait changer la donne sur les actifs européens en 2025.
Ah oui, vous voyez, les choses, effectivement...
Je pense que les deux sont épuisés.
Assez net, quoi. Quelque chose d'assez c'est net entre l'Ukraine et la Russie qui libère vraiment permettent de libérer une partie de la décote, enfin qui enlève une partie de la décote.
S'il n'y a pas de capitulation militaire ou politique de l'Ukraine, c'est une défaite stratégique de la Russie monstrueuse, Syrie, Suède, tout ce qu'on veut. Et pour faire accepter ça, le seul prix qu'elle peut accepter, c'est le retour du gaz russe.
D'accord.
En Europe.
D'accord.
C'est le seul moyen
d'une pierre deux coups, quoi.
Voilà. Et ça arrange en plus les Européens. Donc, pour moi, je veux dire, si on a une vraie cessez-le-feu sur les lignes de contact, sans capitulation ukrainienne, pour faire passer la pilule aux Russes, il faut qu'ils revendent du gaz et qu'ils puissent reconstruire aussi leur économie, parce qu'il est quand même en beaucoup
moins... Et ça limite les inquiétudes qu'on a, effectivement, sur l'approvisionnement énergétique et le coût de l'approvisionnement énergétique pour un certain nombre d'entreprises.
Ça fait une story sur l'Europe.
Non, mais c'est une bonne idée, mais c'est un pari, quoi.
En tout cas, je pense que pour un cessez-le-feu, c'est probable.
C'est dans 2020, c'est pour 2025. Sur la situation des marchés, est-ce qui vous intéresse en début d'année, Sébastien ? Ouais, non, mais il faut y croire en tout cas.
Non, mais je pense que c'est important. Il y aura cessez-le-feu si Trump arrête d'aider l'Ukraine. Ça sera après.
Bon, c'est plus day one maintenant, c'est dans les 6 mois. Il a
du point de vue stratégique, les Allemands, et c'est très important, ont changé d'idée. Le partenaire russe, tant que Poutine est là, n'est pas un partenaire et il faut changer. Donc, le paradigme européen, il est à définir. Mais pour revenir au marché, vu qu'il n'y a pas beaucoup de temps, nous, on est dans cette idée qu'il y aura beaucoup de volatilité. Aujourd'hui, c'est difficile de ne pas être sur les actions américaines pour des questions presque pavloviennes, c'est-à-dire la baisse de taxes va aider, ça a aidé dans le passé. Est-ce que ça peut aller vite ou pas, d'amener le taux de l'IS à 15%? Peut-être pas, mais c'est un élément qui soutient. On est à 15% encore, ou entre 12 et 15 de hausse des
IS. Tant qu'on s'éteint, c'est buy the rumor, quoi.
Voilà. Et donc, évidemment, avec ce biais très important entre la tech américaine et le reste, là, peut-être, ça sera plus homogène. On a vu des sursauts, des small caps sur une croissance, des tentatives. Ouais. Mais bon, Nvidia prend une bande passante énorme. Donc, nous, on est toujours sur les actions américaines, mais peut-être à court terme, c'est la bonne idée de rester là-dessus, avec cette fragilité quand même des taux qui montent et donc quand même des valos qui deviennent trop exigeantes. Donc le marché, on voit bien depuis décembre, hésite. Et on est très optimiste Trump, mais quand même on hésite parce qu'on a cet obstacle. Maintenant, pour le reste du monde, c'est vrai que nous, c'est difficile de faire un énorme pari, à moins que la Russie change des choses, mais sur les actions européennes. Pourquoi ? Parce que, il y a les inconnus politiques, et on voit bien que c'est compliqué. L'Allemagne peut changer la donne en février, et donc on a du mal à revenir. Il n'empêche que les valeurs sont plus exigeantes, comme vous l'avez vu, parce que les taux ont monté notamment. Mais nous, on voit qu'il y a des choses qui devraient quand même marcher un peu mieux. Donc on est sur, quand même, on est neutre, disons.
Vous capitulez pas sur l'Europe.
On balance pas l'Europe.
Bah oui, quand même.
Sur les taux, nous on y est assez présents. Pourquoi ? Parce que les taux réels sont intéressants. On est présents sur les taux. On est quand même prudents parce que on va pas mettre sur la duration parier énormément. Le crédit, ça nous intéresse toujours. Et pourquoi ? Parce que il y a ce portage. Malgré le mur de la dette, je pense qu'il est moins fort qu'on le pense, il va arriver plus tard. Et la raison, c'est que pendant toutes ces années, pendant cette période, les boîtes ont pris beaucoup de dettes. Ouais. Elles ont réussi à relayer leurs dettes. Donc le mur est moins fort qu'on le pense, mais il va arriver. Il va arriver parce que ça coûte plus cher.
Il y a déjà eu des premiers refinancements sur le début de l'année, et ça s'est arraché, quoi.
Voilà, et donc nous, on est là-dessus. Et puis, vous restez sur les monnaies, comment gérer ça ? Il reste, je ne vais pas parler du Japon, on parlera peut-être une autre fois. Il reste sur les monnaies, le dollar, il va continuer à être soutenu, on s'est dit de partir. Il y a une limite. C'est quoi la limite ? Est-ce que c'est celle de, il n'y a pas si longtemps, on a touché 0,80 18. Ouais. Est-ce qu'on peut aller plus bas ? Je ne sais pas. On est déjà à 1,02. C'est difficile d'aller contre le dollar, mais ça va s'arrêter.
Il y a un momentum très fort, effectivement. L'euro-dollar, on retourne quasiment 2 ans en arrière. Effectivement, c'était octobre 22 où on avait cassé cette parité. 0,95. Mmh. Merci beaucoup, messieurs. Sébastien Paris-Sorvitz, LBP AM, Alexandre Rezès, Groupe Richelieu et Gilles Etchebérigaray, Elcano Asset Management.